Bon, je vous invite à reprendre le psaume 123. J'espère que nous allons pouvoir nous concentrer sur ces paroles de Dieu qu'on vient de lire. Je crois que c'est un bon thème à la fin de l'année, quand nous pensons de l'année qui est passée presque, des difficultés, des troubles, des soucis, des ennuis, des épreuves peut-être. Il y en avait plein. Et nous approchons maintenant un nouvel an. Nous sachons, j'espère, que nous n'avons pas la force d'en faire face aux problèmes et aux difficultés qui sont toujours devant nous. Donc il faut savoir où regarder. Et voici, nous voyons des yeux troublés par la souffrance qui recherche la pitié. Et nous avons chanté tout à l'heure dans le chant 166, mon Sauveur même, nous avons chanté qu'il est toujours le même, plein de pitié, et qu'il voit ma souffrance et enlève mon souci. Et ça correspond presque exactement à ce psaume. Écoutez encore une fois pendant que je lis ces versets du psaume 123. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce psaume se trouve dans un ensemble de psaumes, dans le psautier, qui sont placés à part. Ils sont appelés les psaumes de degré. On peut même dire les psaumes de montée. Parce que quand on allait à Jérusalem, n'importe si on venait du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, puisque Jérusalem était construite sur une colline assez haute, on montait toujours à Jérusalem. Il fallait toujours monter pour pouvoir franchir les portes de Jérusalem. Et donc ces chants étaient les chants que les pèlerins chantaient en montant vers Jérusalem. Vous vous souvenez peut-être que la loi de Moïse exigeait que au moins les hommes et les garçons de plus de 12 ans, qui étaient considérés comme hommes, devaient monter 3 fois par an. Il y avait 3 fêtes par an où tous les hommes, et s'ils pouvaient apporter leur famille, ils venaient aussi, étaient convoqués à Jérusalem pour célébrer la fête à Jérusalem. Donc 3 fois par an, tout le monde partait en voyage comme pèlerin. C'était des voyages difficiles, des voyages dangereux. Vous connaissez, j'imagine, l'histoire de Jésus quand il a parlé du bon samaritain. Et bon, l'histoire n'a rien à faire avec ceci. Mais c'était pas pour rien que Jésus a raconté cette histoire. Les dangers étaient réels et très connus, même dans l'époque de Jésus-Christ. Et donc, pour partir de la Galilée, peut-être au nord, pour aller jusqu'à Jérusalem, il y avait plein de dangers. Il fallait faire face aux dangers pour arriver à Jérusalem. Il y avait des ennemis. Il y avait les soucis des champs, de la maison, des enfants, de la famille qui étaient restés derrière nous, sans protection. Il y avait tous ces problèmes, tous ces soucis pendant qu'ils approchaient de Jérusalem. Et ce psaume a fait ressortir ces difficultés que les Juifs connaissaient, la moquerie, le mépris des païens autour d'eux. Mais ce psaume met au clair que ce n'était pas simplement un événement répété 3 fois par an. Ce psaume, dans un sens, résumait toute leur vie. Le Juif savait que toute sa vie était vraiment un pèlerinage, qu'il voyageait toute sa vie vers le Jérusalem céleste, qu'il faisait, comme dit Hébreux 11 et le verset 10 de ses patriarches dans l'Ancien Testament, ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils attendaient cette cité. Donc toute leur vie était vraiment un pèlerinage. Et donc je crois que ces psaumes marchent bien dans notre propre contexte, parce que nous sommes aussi des pèlerins, n'est-ce pas? Ce monde ne nous appartient pas, et nous ne nous appartenons pas à ce monde. Nous sommes des pèlerins destinés à un autre monde, une autre cité, un autre royaume, et nous faisons que pèleriner à travers cette vie. Donc pour comprendre ce psaume, il faut souligner les 3 mots clés qui se trouve dans ce psaume. Si vous avez votre propre Bible, vous pouvez les souligner vous-même. D'abord, il y a le mot « yeux », les yeux, qui se trouve 4 fois dans ces 4 versets. Donc ça, c'est important pour trouver le thème. Et puis, il y a aussi le mot « pitié », qui se trouve 3 fois. Donc quand vous lisez ce psaume, c'est clair que ça parle des yeux qui recherchent, qui demandent quoi ? La pitié. C'est des yeux qui recherchent la pitié. C'est ça ce qui se passe ici dans ce psaume. Et on se dit pourquoi est-ce qu'ils cherchent la pitié ? Ben nous trouvons ce mot mépris 2 fois et son synonyme moquerie, donc ça nous donne en tout 3 fois, qui est le contexte dans lequel ses yeux cherchent, demandent la pitié. Et le contexte dans lequel il cherche la pitié, le contexte de mépris et de moquerie dans lequel ses yeux demandent la pitié est évidemment significatif parce que sa description prend la deuxième moitié du verset 3 et le verset 4, c'est presque la moitié du psaume où il raconte ses difficultés. Regardez-le, deuxième partie du verset 3. « Car nous sommes assez rassasiés de mépris, notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. » Donc c'est évidemment, c'est des yeux troublés par la souffrance qui recherchent la pitié. Hein, ils ont ces moqueries, ces mépris, les hautains, c'est des yeux troublés par la souffrance qui recherchent la pitié. Donc on pourrait donner comme titre ou en tête à ce psaume et à ce serment même, des yeux troublés par la souffrance qui recherchent la pitié. Avez-vous jamais vu des yeux troublés par la souffrance ? Le poète français Gérard de Nerval, dans son recueil Poésie diverse, qui est paru en 1855, a parlé des yeux troublés des matelots dans la barque en proie au naufrage à l'instant où cesse l'orage, se brise et s'enfuit sous les flots. Et voici, ces pèlerins sont un peu comme ces matelots. À l'instant où cesse l'orage, ils voient la barque briser et s'enfuir sous les flots. Ah, sans espoir, ils sont. Ils sont prêts à noyer. Ils ont besoin de la pitié de Dieu. Et qui les répond ? Les yeux sont troublés. Donc je veux considérer d'abord la détresse accablante de ces yeux troublés par la souffrance. On va commencer par la dernière partie du psaume pour trouver le contexte, pour trouver la détresse accablante de ces yeux troublés par la souffrance. Et peut-être dans ces difficultés, vous allez vous voir nous-mêmes. Vous allez peut-être comprendre un peu de ces difficultés. La difficulté qui accable l'âme. Regardez encore la deuxième partie du verset 3. « Car nous sommes assez rassasiés de mépris, notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. » Ben, tout simplement, ils sont marqués, ils sont marginalisés, ils sont discriminés et on se moque d'eux en tant que juifs. Et je veux garder la place, mais trouver Néhémie chapitre 4. Néhémie se trouve à la fin des livres historiques. Donc si vous trouvez les psaumes et vous reculez, vous allez trouver Job et puis vous reculez un petit peu plus, vous allez peut-être passer par Esther, c'est si court que vous n'allez pas le voir, et vous allez tomber sur Néhémie. Néhémie chapitre 4, parce que ces psaumes, ces cantiques de degrés, étaient écrits dans la période de Néhémie. La période lorsque les enfants d'Israël revenaient de Babylone après 70 ans de captivité, ils revenaient à leur terre sainte, si vous voulez. Ils étaient en train de reconstruire le temple, mais ils n'étaient plus le pouvoir qu'ils étaient auparavant. Il n'y avait plus David ou Salomon comme roi. Ils étaient peu, ils étaient faibles, il y avait plein de nations autour d'eux qui se moquaient d'eux. Chaque jour, ils craignaient être tués. C'était vraiment possible qu'ils disparaissent complètement. Ils n'étaient qu'une petite nation maintenant entre beaucoup d'autres nations qui étaient plus fortes et qui ne les aimaient pas. Et nous trouvons une de ces histoires en Néhémie chapitre 4, regardez le verset 1, « Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère, il fut furieux et très irrité. » Alors arrêtez un moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si l'ennemi n'a pas le pouvoir de vous arrêter, n'a pas la puissance pour arrêter le travail de Dieu, pour arrêter l'avance de l'église de Dieu, qu'est-ce qu'il va toujours faire? Regardez le verset 2. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? C'est des moqueries là qu'il donne. Les laissera-t-on faire? C'est incroyable. Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Et il demande dans un sens que la réponse attendue est bien sûr que non, ils vont pas pouvoir achever. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par les feux? Essayez d'envisager les murailles de Jérusalem. Ça fait 70 ans que Nebuchadnezzar est venu, il a détruit les murs de Jérusalem, il a brûlé toute la ville, il est reparti avec tous les trésors, et maintenant il n'y avait que le dégât qui restait. Que les pierres qui étaient maintenant ensevelies dans la poussière, brûlées. Il a dit, vous allez prendre toutes ces pierres qui sont traînées partout, et vous allez en faire encore des murs. C'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Puis le verset 3, Tobija, l'ammonite, était à côté de lui, c'est son associé. Et regarde ce qu'il dit. Qu'il bâtisse seulement, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Vous entendez la moquerie qui sort là? Un animal tout simple comme un renard, il pourrait venir et tout seul détruire le mur. Alors qu'est-ce que Néhémie va faire? Est-ce qu'il va se fâcher? Est-ce qu'il va rendre encore des insultes pour insultes? Qu'est-ce qu'il fait dans le verset 4? Il prie, n'est-ce pas? Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Alors je vous demande, les choses ont-elles vraiment changé? Voici comment le monde traitera l'Église dans chaque génération. Dans chaque génération, le monde traitera l'Église ainsi. Parce que le monde célèbre l'indépendance, l'autosuffisance, l'autonomie. Et nous, nous célébrons quoi? Notre faiblesse, notre insuffisance. Nous disons que nous pouvons rien faire en nous-mêmes, mais que par Christ nous pouvons tout faire. Nous sommes tout ce que le monde trouve ridicule. Nous n'utilisons pas les armes du monde, pas les méthodes du monde. Et donc ils se disent, qui sont-ils ces chrétiens? Qui sont-ils ces évangéliques? Qui sont-ils cette église? Alors dans le psaume 123, il dit là dans le verset 3, nous sommes assez rassasiés. C'est-à-dire, nous avons eu plus qu'assez. Mais assez rassasié de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Voici la détresse accablante de ses yeux troublés par la souffrance. Alors avez-vous connu ceci? Hein? Parce que si vous ne l'avez pas encore connu, vous le connaîtrez sous peu, j'imagine. La moquerie de ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Et si ce n'est pas les gens qui vous moquent, c'est souvent comme si les circonstances nous raillaient et nous moquaient. Et je pense à Job, où tout autour de lui était détruit, ou volé, ou brûlé, et c'était comme si le ciel lui tombait sur la tête, et les circonstances autour de lui lui moquaient, il ne pouvait rien comprendre pourquoi. Il se trouvait dans cette circonstance, des yeux troublés par la souffrance autour de lui. Et vous savez, si ce n'est pas des personnes, et si ce n'est pas des circonstances, parfois, il semble comme si Dieu lui-même nous trompait. Est-ce que vous n'avez jamais eu ces sentiments? Je veux que vous trouviez Jérémie, chapitre 20, le prophète Jérémie, et chapitre 20, parce que Jérémie a connu ce problème. Ces sentiments, Jérémie chapitre 20 et le verset 7, vous l'avez trouvé, nous voyons qu'il parle à Dieu. Et regarde ce qu'il dit à Dieu. Il dit, Dieu, tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Donc l'idée ici, c'est, je me suis laissé attraper On m'a trompé, tu m'as persuadé, éternel, je me suis laissé persuader, tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et regarde ce qui s'est passé. Je suis chaque jour maintenant un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Et vous savez, il n'y a pas que les enfants que ça touche quand on se moque d'eux. Même les prophètes ont du mal quand tout le monde se moque d'eux. Et là, il dit, tout le monde se moque de moi. Regardez le verset 8. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Vous voyez ce qu'il est en train de dire là dans le verset 8, Jérémie 20. Ce qu'il est en train de dire, c'est toutes les fois que je parle pour toi, Dieu, je dois toujours crier violence et destruction. C'est tout ce que tu me laisses prêcher. Chaque fois que je prêche pour Dieu, je dois parler de la destruction, de la violence qui va arriver à Jérusalem. Et c'est tout ce que tu me permets de prêcher. Et donc c'est pour cela que tout le monde se moque de moi. Et vous savez, quand vous avertissez les gens de la destruction qui va arriver sur les pécheurs, du jugement de Dieu sur les inconvertis, quand vous commencez à parler de l'enfer, le monde n'aime pas qu'on parle de l'enfer. Et donc il commence à se moquer de vous, à lancer des injures et des railleries pour vous faire arrêter. Je connais un prédicateur aux États-Unis qui rassemble chaque dimanche 40 000 personnes. Imaginez cela. 40 000 personnes par dimanche, des centaines de milliers qui le regardent par télévision. Il s'appelle Joel Osteen, vous le connaissez peut-être. Et je vais vous dire pourquoi il a 40 000 personnes qui viennent à son église chaque dimanche. Parce qu'il le dit lui-même qu'il veut que parler du positif. Il ne veut jamais parler du négatif. Il dit, je suis là pour encourager les gens. Donc on lui demande, est-ce que tu parles de l'enfer? Non, je ne parle pas de l'enfer. On lui demande, est-ce que Jésus est le seul chemin? Il dit, je ne suis pas là pour dire cela, je ne peux pas vous dire ça. Je peux dire que Jésus sauve, mais je ne vais pas dire qu'il est le seul chemin. Et il ne parle pas de l'enfer, il ne parle pas du jugement de Dieu, il ne parle que du positif, et c'est pour ça qu'il a 40 000 personnes. Et donc j'imagine qu'il rencontrait Jérémie, il lui dirait, mais je peux t'aider, je vois le problème, je vois pourquoi tout le monde se moque de toi, parce que tu parles que de la violence et de l'oppression, il faut changer un peu ton message. Mais regarde ce que Jérémie dit dans le verset 8, la deuxième partie, « Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. » C'est la parole de l'Éternel. Donc là, il est en train de prêcher exactement ce que Dieu lui dit de prêcher. Et tout ce qu'il reçoit en retour est l'abus et le mépris. Donc je crois qu'on peut tirer une leçon de cela. Vous pouvez être au plein centre de la volonté de Dieu en faisant ce qu'il vous demande et en même temps recevoir en retour que le mépris et l'abus du monde. N'est-ce pas? Ça s'est passé avec Jérémie. Il faisait la volonté de Dieu, il prêchait la parole de Dieu et il recevait en retour que le mépris et que l'abus de ceux qui étaient autour de lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, il essaye de démissionner. Regardez le verset 9. « Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Hein, si je dis, c'est assez, je démissionne, j'arrête. » Donc quand Dieu me donne des paroles en tant que prophète à prêcher au monde, je les garde pour moi-même, je garde sa parole pour moi-même, je ne partage plus aux hommes. Qu'est-ce qui se passe? Pensez-vous qu'un homme appelé par Dieu pour proclamer sa parole peut simplement quitter son poste quand il veut? Pensez-vous qu'un chrétien ou une chrétienne peut simplement dire « Ah, je ne vais plus vivre pour Dieu, c'est trop difficile. Dans ma famille, au travail, à l'université, c'est trop dur, j'arrête, je ne veux plus vivre pour Dieu. » Est-ce qu'un chrétien peut vraiment faire ceci? 1 Jean nous dit que celui qui est né de Dieu à la semence de Dieu en lui, et il ne peut pas continuer dans le péché parce qu'il est né de Dieu. C'est une impossibilité. Et pour ce prophète appelé par Dieu, c'était aussi une impossibilité d'arrêter son ministère. Regarde ce qu'il dit dans le verset 9. « Si je dis que je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. » C'était tout simplement une impossibilité de le contenir et de ne pas le partager. Dans d'autres termes, c'était plus difficile de se taire que de souffrir la moquerie qui accompagnait la proclamation de la parole de Dieu. Mais cela ne l'a pas rendu facile. Regardez le verset 10. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Accusez-le et nous l'accuserons. C'est-à-dire, les gens qui se disaient, bon, si tu le dénonces, on est derrière toi, on va le dénoncer aussi. Tous ceux qui étaient en paix avec moi, c'est-à-dire mes proches, ceux que j'y pensais étaient mes amis, ils observent maintenant pour voir si je chancelle et disent, peut-être se laissera-t-il se prendre et nous serons maîtres de lui. Nous tirerons vengeance de lui. Voici comment il est traité. Alors vous parlez des yeux troublés par le mépris. Jérémie savait ce que c'était le mépris. Et je doute que vous avez des ennuis comme celle-ci, mais je vous demande d'y réfléchir quand même. Quels sont vos ennuis, vos souffrances? Est-ce qu'ils semblent vous entourer de sorte que vous ne puissiez pas regarder dans aucune direction sans les voir? Que vos yeux sont consumés par la souffrance autour de vous? Que vos yeux sont troublés par le mépris ou par la souffrance? Votre âme est-elle remplie par la détresse? Alors, vous n'êtes pas seul et vous n'êtes surtout pas le premier. Ça a été l'expérience des enfants de Dieu dans toutes les générations. Notre foi n'est pas une foi étourdie et peu réaliste. La foi chrétienne, c'est pas de fermer les yeux et d'ignorer la réalité des difficultés dans nos vies. La question n'est pas comment pouvons-nous échapper au mépris, la question c'est comment répondrons-nous face au mépris. Et donc ici, de l'antre des lions, de la fosse aux lions, de la moquerie, de la dérision et du mépris, montent les cris du pèlerin. Dans le verset 1, « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Donc après avoir vu la détresse accablante, des yeux troublés par la souffrance, et je vous demande de mettre vos propres souffrances là dans leur place. On va prendre toutes nos souffrances, toutes nos difficultés, et je veux que nous voyons deuxièmement la vue glorieuse de ces yeux troublés par la souffrance. La vue glorieuse. Il dit dans le verset 1, « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Alors, où regardez-vous? Quand les difficultés et les épreuves vous accablent, vous écrasent, vous submergent comme une inondation. Où regardez-vous? Ce psalmiste regardait vers Dieu qui siège dans les cieux. Nous avons là une vue de sa majesté dans les cieux et de sa souveraineté qui siège, qui gouverne depuis les cieux. Il regarde vers le Dieu souverain. Alors qu'est-ce que Jérémie a vu quand il a regardé au-delà et au-dessus de ses moqueurs? Si vous êtes toujours en Jérémie chapitre 20, regardez le verset 11. C'est juste après les autres versets qu'on a lus, jusqu'à verset 10. Regardez sa réponse dans le verset 11. « Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant, comme un guerrier, comme un champion à craindre. » Vous voyez, même Jérémie, il a su regarder au ciel, à celui qui siège dans les cieux. Et quelle vue c'était! Un héros puissant qui était avec lui. Alors, où est votre regard fixé? Votre regard est-elle fixé sur les hommes, les choses, les circonstances, les difficultés? Ou regardez-vous vers le ciel? Il y a plein d'exemples dans la Bible. Je pense à Joseph, quand il a été jeté dans le puits, et puis jeté en prison plus tard. Il a fixé son regard sur celui qui demeure dans les cieux, et c'est ce qui lui a permis à dire à ses frères en toute sincérité plus tard, « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Il voyait Dieu. Il ne sait pas ce que Paul a fait quand il a été jeté en prison, nous l'avons vu déjà en Philippiens chapitre 1, c'est ce qui lui a permis à dire « Depuis la prison, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire toutes mes difficultés, mes épreuves maintenant en prison, a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, parce qu'il avait les yeux fixés vers le ciel. » Alors, où tournons-nous quand les épreuves envahissent notre vie? Ceux qui ont cette vue glorieuse, même pour des yeux préoccupés par la souffrance, il y a une vue glorieuse, vous devez simplement regarder. Je lève mes yeux vers toi, il dit, vers toi qui siège dans les cieux. Et donc ce dont nous avons besoin est une vision de Dieu, pas vision physique, mais spirituelle. Nous avons besoin d'une conscience de la majesté, de la souveraineté de Dieu au-dessus de toute chose. Il y a peut-être des choses où vous vous demandez si vous êtes maltraité, si on n'a pas été juste avec vous. Et j'y pense à des choses maintenant dans ma vie. Et à chaque fois, vous devez vous rappeler, de regarder vers celui qui habite dans les cieux, de lever les yeux vers Dieu qui siège dans les cieux. Il ne faut pas imaginer que ce Dieu est un tyran très éloigné, hein, parce que ces pèlerins ne recherchaient pas la pitié de Dieu parce qu'ils pensaient que c'était à contre-courant du caractère de Dieu. Non, pas du tout, ils connaissaient Dieu, parce que regardez le psaume qui suit, c'est le psaume 103. Parce qu'il y en a qui regardent à Dieu, mais ils ont une mauvaise image de Dieu. Ils ne comprennent pas le caractère de Dieu. L'Éternel, psaume 103, verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Et il se souvient que nous sommes pas plus que poussière. Hein, voici le Dieu vers qui nous approchons. Ça c'est le Dieu, un Dieu plein de bonté, plein de compassion. Comme un père avec ses enfants, il est aussi lent à la colère, riche en bonté. Ça, c'est le Dieu vers qui nous prions. Et donc, parce que le psalmiste connaît le caractère de Dieu, cette vue glorieuse de Dieu haute et soulevée au-dessus de tout, ça pousse le pèlerin à rechercher hardiment et ardemment la pitié. Vous voyez, il tourne les yeux vers Dieu qui siège dans les cieux, et puisqu'il le connaît comme compatissant et plein de bonté, ça le pousse à demander la pitié. Parce qu'il a de l'espoir que Dieu va lui répondre. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce que Néhémie a fait. Il prie. C'est souvent la dernière chose que nous pensons à faire, n'est-ce pas? Mais voici, le psaume commence avec une prière. Donc après avoir vu la détresse accablante des yeux troublés par la souffrance, on va mettre nos propres souffrances là dans leur place, et ayant vu la vue glorieuse pour ces yeux troublés par la souffrance, c'est un Dieu élevé, un Dieu majestueux, plein de bonté, un Dieu souverain. Regardez troisièmement la demande ardente de ces yeux troublés par la souffrance. Ils ne font pas que regarder, ils ont une demande à faire, ils recherchent quelque chose. Suivez la psaume 123 encore. « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Aie pitié de nous, Éternel. Aie pitié de nous. » Alors comment répondons-nous aux périodes de souffrance? Ce que nous devons faire, c'est de tourner notre regard sur un Dieu grand et majestueux et de prier. Nous fixons notre espoir exclusivement sur Dieu et nous attendons que Dieu nous montre sa pitié. Nous avons tendance à être si impatients. Et donc souvent, si vous êtes comme moi, vous priez pour quelque chose une ou deux fois et puis vous le laissez du côté parce que Dieu n'a pas répondu assez rapidement. Donc on ne sait pas persister dans la prière. Mais nous voyons plusieurs choses ici. D'abord, regardez la base de la demande. La base de la demande sur laquelle il base sa requête. Il dit « Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux ». La base de cette demande, c'est la souveraineté de Dieu. Il est en train d'être opprimé, d'être moqué par les hommes autour de lui, mais il connaît celui qui siège dans les cieux. Donc, puisque c'est Dieu qui est souverain, il peut s'approcher de Dieu pour demander de l'aide. Donc, la base de sa prière, c'est une conviction que c'est Dieu qui siège dans les cieux, que c'est Dieu qui est souverain. Et voici, nous voyons la relation entre la souveraineté de Dieu et la prière. C'est une connaissance de la souveraineté de Dieu qui nous pousse à prier. Donc la base de la demande, c'est la souveraineté de Dieu. Et regardez aussi la manière de faire la demande. La manière de faire la demande. Comment est-ce qu'il approche Dieu? De quelle façon? Eh bien, il nous peint un tableau, vous le voyez? C'est comme un serviteur avec son maître ou c'est comme une servante avec sa maîtresse. Je vois au moins trois choses dans cette image. Nous voyons que nous devons venir à Dieu avec un maintien humble, avec l'humilité. Nous venons comme le serviteur approche au maître, comme la servante à sa maîtresse. C'est une expression, comme un serviteur au maître, c'est une expression de respect. Le serviteur démontre en faisant même la révérence devant son maître. Je suis votre serviteur. C'est une façon de démontrer clairement qu'ils ne sont pas des égaux. Parce que quand ils se voient, il y a un qui se courbe et l'autre qui se courbe pas. C'est pour démontrer qu'ils ne sont pas des égaux. Il y a un qui va se soumettre à l'autre. Et donc quand nous venons à Dieu, nous venons pas comme au génie, là où nous avons trois requêtes à faire et c'est nous qui commandons ce qui se passe. Non, nous venons comme des servantes et des serviteurs au maître, avec l'humilité. Sachant que Dieu n'est pas obligé à nous répondre. Nous sommes pas là pour faire des affaires, si vous voulez, avec Dieu. Dieu, si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Non, 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 c'est avec humilité que nous venons. Et puis c'est avec une volonté soumise aussi. Une volonté soumise à sa volonté. Parce que c'était le devoir du domestique de se soumettre à la volonté de son maître. Un serviteur et une servante ne pouvaient pas décider pour eux-mêmes ce qu'ils voulaient faire, quand ils voulaient faire. Leur volonté était soumise à la volonté de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Dieu a dit à Agar, vous savez, la servante de la femme d'Abraham, Sarah, il a dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Parce que c'était ce qu'une servante devait faire. S'humilier sous la main de sa maîtresse. Donc, quand il approche Dieu comme une servante, regarde la main de sa maîtresse, une des idées, c'est de s'humilier, de soumettre sa volonté à la volonté de la maîtresse ou du maître. C'est-à-dire de Dieu. Et n'est-ce pas ce que Jésus a prié dans le jardin? Que ma volonté ne se fasse pas, mais quoi? Mais la tienne. Donc quand nous approchons Dieu avec nos requêtes, avec nos soucis, avec nos fardeaux, il faut lui approcher avec humilité, mais avec une volonté qui est soumise à sa volonté, comme Jésus-Christ lui-même a démontré. Et après, je crois que nous voyons dans cette image aussi l'idée d'avoir un esprit dépendant. J'utilise ce mot « dépendant » en contraste avec le mot « indépendant ». Hein, le contraire d'être indépendant, un esprit dépendant. Parce qu'un esclave, vous savez sûrement, n'avait aucun droit à l'autodéfense. Une des fondations de nos républiques, c'est que nous avons le droit de nous défendre nous-mêmes. Mais l'esclave n'avait aucun droit de se défendre, et donc si un esclave était la victime de l'abus, il n'avait pas le droit de se défendre devant celui qui l'abusait, il devait l'accepter tout simplement. Il devait supporter l'abus et puis il devait tourner vers son maître ou vers sa maîtresse pour qu'ils interviennent. Ils ne pouvaient pas prendre les choses en main eux-mêmes, ils ne pouvaient que aller vers leur maître, vers la maîtresse, pour expliquer ce qui s'est passé, pour demander qu'ils interviennent et qu'ils leur donnent la justice. Donc ils étaient complètement dépendants sur le maître pour recevoir même la justice des autres autour d'eux. L'esclave n'avait aucun autre recours que son maître. C'était vraiment son seul espoir. Et c'est dans cette façon, avec cette idée, que ces pèlerins approchent Dieu, avec cet esprit dépendant. Tu es notre seul recours, tu es notre seul espoir. S'il n'y a pas toi, il n'y a personne. Effectivement, regardez le psaume qui suit, c'est le psaume 124. C'est aussi un psaume de degrés, vous l'avez, psaume 124 de David. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants, quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Sans l'Éternel qui nous protégea. Et donc il dit dans verset 6, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Vous voyez, leur seul espoir, c'est l'Éternel. Donc nous approchons le Seigneur d'une manière humble, avec une volonté soumise et avec un esprit dépendant sur lui comme notre seul recours. Nous voyons la base de la demande. C'est la souveraineté de Dieu, la manière de faire la demande, comme un serviteur avec son maître ou une servante avec sa maîtresse, et tout ce que cela veut dire. Et puis, regardez finalement la durée de la demande. La durée de la demande. Je reprends dans le verset 1, Cantique des degrés, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Vous n'avez pas besoin de le chercher, mais je vais vous lire la fin de l'histoire en Néhémie chapitre 4 que nous avons vu tout à l'heure. Ils se moquaient d'eux, vous vous rappelez? Ils disaient, un renard peut faire tomber ses murs. Et dans versets 4 et 5, Néhémie répond par la prière. Et puis dans verset 6, il nous a dit, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. Il a prié. Et il a continué à prier jusqu'à ce que Dieu a répondu à la prière et la muraille fut partout achevée. Et le peuple prit à cœur ce travail. Alors la durée de la demande, c'est jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce qu'il nous répond. Alors je connais pas tous vos soucis, vos difficultés, vos problèmes, vos peurs, peut-être face à l'année prochaine. Mais je peux vous dire qu'il y a un Dieu qui siège dans les cieux. Que c'est un Dieu souverain, un Dieu compatissant. Et que nous ne pouvons pas ignorer les problèmes. Hein. Même la façon que le psaume termine sur ce problème, c'est évident que ce n'est pas un problème qui était là pendant un certain temps et qui est parti. C'était quelque chose de continuel. C'est presque toujours là. Mais il y a aussi toujours Dieu. À qui prier et qui peut toujours répondre à nos prières.